défenseur de cette liberté que j'idolâtre, libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette République si intéressante, je n'y porte que ma franchise et ma bonne volonté, nulle ambition, nul intérêt particulier. Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité. Lettre du marquis de Lafayette à son épouse, le 7 juin 1777.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À l'issue de la guerre de 7 ans, le traité de Paris de 1763 avait fait de la Grande-Bretagne la puissance dominant le continent nord-américain. La couronne de France avait perdu le Canada, ses arpents de neige selon la formule de Voltaire, et ainsi les populations du Canada rejoignaient au sein de la couronne britannique les territoires plus au sud des 13 colonies d'Amérique. Seulement, la guerre de 7 ans avait coûté cher à la Grande-Bretagne. Et le gouvernement britannique avait décidé d'augmenter fortement toute une série de taxes touchant les colons d'Amérique. C'est vrai pour la taxe sur le sucre en 1764, suivie d'une taxe de timbre en 1765, et enfin une très forte augmentation des taxes sur le thé en 1773. Cette politique fiscale avait provoqué l'irritation de nombreux colons installés en Amérique. Mais d'autre part, se posait aussi, au sein de ces 13 colonies d'Amérique, une autre difficulté. Les élites britanniques d'Amérique voulaient vraiment être représentées à Londres. Or, ils n'avaient droit à aucun député aux communes. Ainsi, quand le gouvernement britannique décide de surtaxer le thé, c'est l'incident qui fait éclater la révolte, puisque, en signe de protestation, des colons jettent à la mer des caisses de thé, et surtout, le 4 juillet 1776, des délégués des 13 colonies décident de se donner vis-à-vis de la couronne une indépendance, proclamant ainsi la naissance d'un nouveau pays, les États-Unis. À Londres, cette décision est évidemment très peu accueillie. Il est question, au contraire, de répliquer avec vigueur vis-à-vis de cette rébellion. Le gouvernement, dirigé par Lord Frederick North, appuyé d'ailleurs par le souverain George III, décide de répliquer vis-à-vis des révoltés en envoyant une flotte et des troupes représentant 50 000 hommes afin de réprimer les insurgés. La déclaration du 4 juillet 1776 à Philadelphie a déjà ses héros. Son représentatif, les personnalités de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson, de George Washington. Mais il est indéniable que pendant 2 ans, les insurgés sont seuls vis-à-vis de la couronne britannique. À partir de 1778, le gouvernement du roi de France décide de s'intéresser de près à ce qui se passe en Amérique. En effet, est-ce que cette révolte des colons américains n'est pas l'occasion d'une revanche vis-à-vis de la guerre de 7 ans et d'affaiblir la présence anglaise en Amérique du Nord? Aussi, si au début de cette guerre d'indépendance, ce n'est que à titre personnel que certains Français, comme le marquis de Lafayette, va aider les insurgés, à partir de 1778-79, la France envoie une aide militaire conséquente. C'est une armée de 35 000 hommes, dirigée par le marquis de Rochambeau, aidée également par 8 000 soldats espagnols qui vont soutenir les insurgés. D'autre part, l'amiral de Grasse amiral français, va diriger une escadre chargée de gêner l'arrivée des renforts britanniques. Sur le plan strictement militaire, les insurgés, après des débuts très difficiles, puisqu'ils perdent Philadelphie et New York, réussissent tout de même à remporter un succès de prestige à Saratoga en 1778. Mais la grande bataille significative de cette guerre d'indépendance a lieu en septembre et octobre 1781, où une armée britannique est encerclée à Yorktown, obligée de capituler, ce qui fait que les Américains, les insurgés, réussissent à capturer près de 7000 soldats anglais, ainsi que leur commandant en chef, Charles Cornwallis. Qui plus est, cette victoire s'explique aussi par l'action de la flotte française, puisque l'amiral de Grasse réussit à repousser une attaque navale anglaise en baie de Chesapeake le 5 septembre 1781, où 19 navires anglais affrontent 24 navires français et 6 navires anglais sont coulés alors que tous les navires français ne sont pas touchés. Ainsi, l'apport français a été sans doute important dans la proclamation de cette indépendance américaine. Reste à analyser tout de même cette page de l'histoire de l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est une lutte anticoloniale ? En fait, ce sont une partie des colons qui se révoltent contre la mère patrie. La guerre d'indépendance américaine n'est pas une lutte anticoloniale, mais plutôt la lutte de colons éloignés de la couronne britannique, irrités par la politique de Londres, qui fait qu'ils sont poussés à la révolte et à la sécession, ce que confirmera le traité de Versailles de 1783. On ne peut pas dire que la révolution américaine soit d'abord une lutte véritablement anticoloniale. D'autre part, est-ce qu'il y a dans cette révolution une influence de l'idée des Lumières ? Il est vrai que dans la déclaration de 1776, on expose quelques idées chères aux penseurs des Lumières. Ainsi, tous les hommes naissent égaux. Leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Et enfin, dernier exemple, que si un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, vient à méconnaître ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement qu'il fondera sur de tels principes et dont il organisera les pouvoirs selon les formes qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa propre sécurité et son bonheur. Donc il y a bien dans cette déclaration américaine des idées que l'on pourrait retrouver dans le contrat social de Rousseau ou dans le philosophe Locke. Il est vrai aussi que la déclaration d'indépendance ne s'étend pas tout de même à tous les habitants des colonies américaines. Il n'est pas question d'abolir l'esclavage. Celui-ci ne sera aboli qu'en 1865. Les hommes de couleur restent dans une catégorie inférieure aux classes des colons d'origine européenne. D'autre part, il est bien évident que le droit des Indiens, qui se posent déjà à ce moment-là, n'est pas appelé à être respecté. Au contraire, les territoires indiens sont destinés à devenir des zones d'expansion. La Constitution de 1787, qui donc s'organise après la reconnaissance par Londres de l'indépendance des États-Unis, élabore une Constitution fédérale. Elle est le fruit de divers compromis entre des représentants qui souhaitaient un pouvoir plus centralisé ou au contraire des représentants qui voulaient un pouvoir plus fédéral. Finalement, la Constitution américaine de 1787 applique des principes de séparation des pouvoirs que l'on retrouve chez Locke et chez Montesquieu, et d'autre part, une séparation aussi des libertés qui sont préservées. Indéniablement, la Constitution de 1787 annonce un État qui respecterait, du moins pour les classes issues de l'immigration européenne, une véritable liberté à la fois individuelle et collective. Les amendements qui débutent la Constitution marquent d'ailleurs cette liberté. L'actualité nous rappelle régulièrement que le port d'armes est extrêmement respecté aux États-Unis parce qu'il apparaît comme une des libertés fondamentales du citoyen américain qui a été proclamée à la fin du XVIIIe siècle. Autre élément qu'il convient de souligner, c'est que qui en Europe se doute à ce moment-là que véritablement les États-Unis sont appelés à un grand destin politique. On a encore le sentiment que les puissances sont européennes. Or, on sait désormais que commence à apparaître progressivement, au début du XIXe siècle, une puissance qui compte et qui a bien l'intention de se faire respecter dans sa zone d'influence. Ainsi, en 1823, la doctrine Monroe proclame la non-ingérence européenne dans la sphère des Amériques. Finalement, peut-être que Napoléon avait vu juste quand, depuis son exil de Sainte-Hélène, il avait proclamé qu'il laissait au berceau deux grandes puissances, les États-Unis d'Amérique et la Russie.